Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
À voix nue, Caroline Brouet.
Serge Chalandon, journaliste, écrivain, flâneur salarié.
Deuxième épisode, notre revanche sera le rire de nos enfants. Bonjour Serge Chalandon.
Bonjour.
Cette phrase, c'est une phrase prononcée par Bobby Sands. Bobby Sands était un jeune militant, il avait 27 ans, c'était un républicain irlandais, membre de l'IRA, l'armée de républicaine irlandaise, et il est mort en prison après 66 jours de grève de la faim, on était en 1981. Pourquoi cette phrase ? Parce que nous allons aujourd'hui parler de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, que vous avez raconté dans deux romans, « Mon traître » et « Retour à Killybegs », et dont vos articles ont été réunis dans une somme absolument bouleversante et splendide, qui porte ce titre, Black Star Édition. Quand je dis ce titre, c'est justement cette phrase de Bobby Sands. On va parler de l'Irlande du Nord, parce qu'elle vous a occupé pendant très longtemps. Vous avez été journaliste à Libération, couvrant les événements d'Irlande du Nord de 1977 à 2006. Mais avant, justement, je voudrais qu'on parle de ces premières années à Libération. Et encore avant, puisqu'on vous a quitté hier, fuyant votre famille à l'âge de 16 ans et demi, vous vivez dans Paris, dans la rue, pendant un an et demi. Et puis, un jour, vous apercevez une pancarte qui attire votre attention. Cette pancarte, elle a pour titre « Contre le racisme anti-jeune ». Et là où vous dites que c'est pour vous. Et cette affiche, cette pancarte, c'est une affiche de la gauche prolétarienne.
Oui.
C'est la deuxième vie qui commence.
J'ai 16 ans et demi, je suis fragile. Donc voilà, j'ai pas de culture, j'ai pas de connaissances. C'est incroyable dans la vie, si on tourne à droite dans la rue ou à gauche, on rencontre les gens ne sont pas les mêmes et notre vie change absolument totalement. J'aurais pu tourner à droite dans la rue et tomber sur, je sais pas, sur l'église de Scientologie, sur les témoins de Jéhovah, sur des gens qui m'auraient dit, en sortant de cette famille-là, qui n'en était pas une, qui était mon père qui était un monstre, en sortant de là, des gens qui auraient dit, mais on peut être ta famille. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'intelligent, on peut t'apprendre des choses. Je tombais pieds et poings liés sur une autre secte ou dans un autre groupement ou avec des gens qui m'auraient voulu du mal. Le problème, c'est que je suis tombé sur d'autres gens, je suis tombé sur des militants, je suis tombé sur des politiques, je suis tombé sur des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, et notamment des choses que je ne soupçonnais pas. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Qu'est-ce que sont toutes ces choses dont j'ai été privé toute mon enfance? Et alors, j'entends maintenant plein de gens dire, oui, l'extrême gauche, d'accord, ok. J'entends tout ça, hein. Mais l'extrême gauche, pour moi, d'abord, c'est des gens qui m'ont donné une dignité, qui m'ont donné une morale. C'est des gens qui m'ont expliqué que le racisme, ben, c'était pas normal, que l'antisémitisme, c'était nul, et qu'il fallait le combattre. C'est-à-dire que je quitte une famille raciste, et quelques années après, je me retrouve en train de faire de l'alphabétisation pour des enfants de travailleurs arabes. C'est-à-dire que je ne fais pas ça contre mon père, mais je fais ça parce que tout d'un coup, la vraie vie s'ouvre à moi, et ces gens-là m'ont aidé. Ils m'ont aidé à réfléchir, ils m'ont aidé à construire, ils m'ont aidé à faire la différence entre le bien et le mal. Donc pour moi, c'est tous ceux que j'entends aujourd'hui qui renient ces moments-là, je les plains un petit peu parce que pour moi c'était extrêmement formateur. Ça aurait pu être l'extrême gauche, ça aurait pu être la gauche, mais en tout cas je me suis retrouvé d'abord je me suis retrouvé en face de l'intelligence, vraiment l'intelligence. C'est-à-dire je ne connaissais pas ça à Lyon dans ma famille avec mon père évidemment, mais je venais de tellement loin que tout ce qui était lumineux m'attirait. Et là, c'était lumineux. C'est-à-dire que les premiers films que j'ai pu voir de Godard, les premières pièces de théâtre, pour la première fois, je suis rentré dans des musées grâce à eux, grâce à ces gens qui étaient militants, certes, mais qui en plus avaient une vie culturelle, que je ne connaissais pas, la vie culturelle. Je me suis retrouvé dans des musées à pleurer devant une toile. Je ne pensais pas que c'était possible de pleurer devant une toile. C'est possible de pleurer devant une toile. Et toute cette colère qui était en moi s'est mue petit à petit en soif d'apprendre. Je veux apprendre. Le problème, et ça c'est un problème qui venait de mon père, c'est que j'ai... Enfin, c'est un problème et en même temps, c'est comme ça. J'ai une violence en moi que mon père a semée, la violence de ses coups, la violence qui me va dans ces mouvements-là. C'est-à-dire, c'est une époque violente.
Et à l'époque, on donnait des coups.
Alors, on donnait, gauche, oui, c'est-à-dire
contre l'extrême droite notamment.
Mais bien,
qui en donnait aussi, hein.
Bien sûr, c'est-à-dire que l'on avait en face de nous des gens aujourd'hui rangés comme Monsieur Madelin, etc. C'est-à-dire que la violence était dans la rue. La violence, que ce soit extrême gauche, extrême droite, elle était dans la rue. C'était un moyen d'expression réelle. La violence aujourd'hui des Black Blocs, c'est pas qu'elle me fait sourire, mais il y a eu tellement pire, tellement plus violent et tellement plus nombreux surtout, mais c'était un moyen d'expression comme un autre. Et donc moi, ça m'allait, cette violence-là, cette ne plus expliquer pendant 2 heures à un antisémite que c'est mal, mais lui faire peur et lui faire mal et le faire courir. Moi, ce que je voulais à l'époque, c'est que la peur, elle change de camp. La peur change de camp et pas dire « Oh, mais enfin, tu peux pas dire ça, des juifs, c'est des... » Non, non, stop, on a tout dit déjà. Il y a eu la Shoah entre-temps, maintenant, c'est terminé. Voilà, ce qu'on disait à l'époque, c'était pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule. C'est vilain, mais c'était l'époque qui était comme ça. Et puis, il y a eu un mort. Pierrot Vernet, un jeune maoïste qui est mort... devant les usines Renault en distribuant déjà des tracts pour les immigrés, pour les travailleurs immigrés. Il est assassiné parce qu'il distribue des tracts et parce qu'il est menaçant. C'est vrai, tout le monde était menaçant, l'époque était menaçante. Il a un bâton entre les mains, il y a le vigile de chez Renault qui veut pas qu'il rentre distribuer les tracts à l'intérieur. Il sort un pistolet automatique, il tue, il s'appelait Tramoni, il tue Pierrot Vernet. Et pour tout le monde, je pense que la mort de Pierrot en 72, c'était un peu la mort du gauchisme. C'est-à-dire que nous vivions dans quelque chose qui était extrêmement étrange. C'est-à-dire, on chantait le chant des partisans. Il y avait les nouveaux partisans qui étaient l'hymne de la gauche prolétarienne, qui était un hymne, voilà. Mais il y avait le chant des partisans, amis entendus. C'est-à-dire que nous étions restés dans l'idée que nous continuions de combattre. C'est-à-dire que les pistolets mitrailleurs Sten qui avaient été rendus à la Libération, il fallait pas les rendre, il fallait qu'on les reprenne parce que la bourgeoisie était les nouveaux très méchants. Etc. C'est-à-dire que nous étions partis, Serge July et Alain Gesmard avaient écrit « Vers la guerre civile », c'est-à-dire qu'on était prêts à un affrontement global, général, absolu. Et ça m'allait. Et ça m'allait. Sauf que Pierrot meurt, sauf qu'on se rend compte qu'on n'est pas allemand, qu'on n'est pas italien, qu'on n'est pas japonais, que notre histoire, la jeunesse de France n'a rien à expier par rapport à la guerre. Et ces gens-là, les Mao notamment, et puis d'autres, mais décident de créer Libération, parce que pour en finir avec la violence, pour en finir avec cette dérive, créer Libération pour lutter par d'autres moyens, c'est-à-dire par les moyens légaux, mais aussi pour que cette voie de la jeunesse existe absolument.
En préférant le stylo aux armes.
Le stylo est une arme. Donc en préférant le stylo qui est une arme à des armes létales qui sont extrêmement différentes, et là... Et ben moi effectivement je après avoir croisé les gens de la cause du peuple, et ben je croise les gens de Libération qui sont les mêmes rajoutés à d'autres, mais en tout cas encore une fois ce mot d'ordre sur Libération de l'époque, peuple prend la parole et garde là, c'est formidable. C'est-à-dire que moi je suis jeune, on n'a pas de radio, on n'a pas de télé. On n'a pas de journaux, à part des trucs idiots comme H tendre, tête de bois, etc. Il y en a que pour les yéyés. Mais nous, on est où? On s'inscrit où? On parle comment? On parle par quel canal? Et tout d'un coup, Libération naît. Et là, je me dis, allez, on y va. J'ai hésité. Hein. J'ai hésité parce que je trouvais qu'on... Encore une fois, le mot trahison. Je trouvais que c'était de trahir nos idéaux d'avant la mort de Pierrot Vernet. C'est-à-dire qu'on se range un petit peu. Et puis d'accord, j'ai accepté de me ranger.
Alors vous entrez à Libération, Serge Chalandon, comme dessinateur, puis monteur en page, puis rédacteur au service police-justice, envoyé spécial à Toulouse pour suivre les grèves étudiants, et puis vous vous retrouvez grand reporter en Irlande. En quelles circonstances ?
Eh bien, je connaissais l'Irlande, je connaissais la musique, je connaissais... moi, j'ai un côté que j'aime l'Ouest, j'aime...
Une Irlande musicale, marine, agricole, accueillante, spirituelle, pauvre et fière, apaisée.
Oui.
La République d'Irlande, hein.
La République d'Irlande, voilà. Et puis un jour, eh ben, j'ai un peu de temps et je prends le train à Connolly Station, à Dublin, pour aller à Belfast. C'est juste, c'est à 2h30, un petit aller-retour, allez, c'est pas grave. Et là, je découvre une guerre, pas un match de foot. C'est-à-dire, c'était un peu dans la, à la radio en France, c'était un peu ça. C'était, alors, un mort chez les Britanniques et deux chez les Républicains. À 3-0 aujourd'hui, 2-1. Je comprenais rien du tout. Catholique, protestant, je comprenais rien du tout. Une guerre de religion, mon Dieu, en pleine Europe, en ce moment, quelle horreur. Et tout d'un coup, je tombe, d'abord, la guerre civile. L'armée britannique n'est pas une armée civile, déjà, première chose, c'est une armée, ce sont des militaires. Et ce que je vois, moi, quand j'arrive à Belfast, c'est quelque chose que, si un gamin de mon âge n'est pas bouleversé de voir des chars, des gens traînés par les cheveux, etc., ça ne sert à rien qu'ils vivent. Et donc moi, tout d'un coup, je tombe amoureux de ce pays, d'abord de ces gens, de leur fierté, et puis ce mélange que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, ce mélange de poésie, ce mélange de colère, ce mélange de fierté, ce mélange de dignité que nulle part ailleurs je n'ai trouvé dans aucun combat. Il y en a évidemment ailleurs, mais je n'ai pas approché à ce point-là un combat dont je me sente aussi proche.
Donc là, on est en 1977. Quand vous rentrez, vous l'écrivez dans « Mon traître », Sacha Landon, vous êtes un homme différent. Vous dites « En rentrant à Paris, j'ai compris. » En me réveillant le jour d'après, en marchant dans la rue cet avril 1977, en regardant le ciel pour rien, en croisant ceux qui ne savaient pas, j'étais différent. J'étais quelqu'un en plus.
Oui.
En plus de quoi ?
En plus de ce que j'étais avant, c'est-à-dire avec l'Irlande en plus. L'Irlande en plus sans moi, c'est-à-dire ce pays me faisait désormais cortège. Avec ses héros, avec ses martyrs, avec son histoire, avec son futur, avec son avenir. Et c'était... c'est la première fois que je voyais un fusil, par exemple. Et là, il n'y avait que des fusils. C'est la première fois que je voyais une armée qui rentrait dans un pub et qui tapait les gens parce qu'ils chantaient leur hymne national. C'est la première fois que je voyais des soldats monter sur le toit de leur blindé pour arracher un drapeau irlandais vert, blanc, orange, le drapeau de la République, le drapeau reconnu mondialement, pour arracher le drapeau vert, blanc, orange qui pendouillait à une petite fenêtre qu'une petite dame avait mise en disant « Je suis irlandaise ». Cette violence-là, c'est la première fois que je l'ai vécue. Donc, il s'est passé en moi quelque chose qui était irréversible. J'avais désormais l'Irlande au cœur, j'avais l'Irlande au ventre, l'Irlande de partout, et tous ceux qui... C'est étrange parce que je parle beaucoup de l'Irlande dans les rencontres, lorsque les gens achètent les livres, etc. Et plein de ces gens-là me disent qu'ils ont la même chose. Avant qu'ils y aillent, et après qu'ils y soient allés, ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est y retourner. Et il y a un moment donné même qui est incroyable. C'est que quand on rentre en France, en fait, on va en France, et quand on va en Irlande, on rentre en Irlande. Et c'est quelque chose qui est, et c'est pas du tout, parce que c'est extrêmement important. C'est pas du tout une sorte d'image idyllique, pas du tout. On sait ce que c'est qu'une guerre, c'est une dégueulasserie, on sait ce qui se passe, et donc c'est pas quelque chose qui est, c'est très poétique, l'Irlande, pas du tout. J'aime aussi l'Irlande dans sa violence, et dans sa nuit, et dans ses briques sales, mais tout ça, quand je croise l'Irlande, quand je croisais l'Irlande, et quand je la croise encore, et quand je croise les gens, j'ai vraiment l'impression, vraiment, c'est là où j'ai appris le mot de dignité. C'est là où je l'ai appris, et cette dignité m'a renvoyé à d'autres dignités, dans notre pays, dans notre histoire, mais cette dignité-là, au présent, pour moi, elle était bouleversante.
C'est dans les colonnes de Libération que le 6 décembre 1993, l'armée républicaine irlandaise a déclaré officiellement qu'elle était prête à déposer les armes. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait vôtre, Sorge Chalandon, la cause des républicains irlandais contre les unionistes et les britanniques, des catholiques contre les protestants là-bas ?
Alors pas contre, non. C'est-à-dire que Sinn Féin a toujours dit ce que nous espérons, c'est que les unionistes, c'est-à-dire ceux qui veulent l'union avec la Grande-Bretagne, ou les loyalistes qui sont loyaux à la couronne, que ces gens-là soient des Irlandais et qu'ils soient la partie protestante de notre peuple. Ça a toujours été dit. On n'a jamais entendu...
C'était pas exclure, c'était inclure.
Mais jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu les protestants à la mer. Jamais. C'est-à-dire qu'il a toujours été dit qu'il y avait un peuple, les Irlandais, et dans ce peuple-là, il y avait... les descendants des colons 800 ans auparavant, des colons écossais, etc. Mais que ces gens-là...
Parce que c'est une situation qui est héritée de siècles d'histoire.
Mais que les protestants irlandais étaient considérés par les républicains irlandais, par les nationalistes, comme partie prenante de leur peuple et à égalité. C'est tout. C'est-à-dire que comment on se retrouve à soutenir non pas un peuple qui lutte contre, mais un peuple qui lutte pour les mêmes droits. Les républicains irlandais, les catholiques irlandais, les nationalistes irlandais depuis 69, leur cri de guerre, c'était un homme, un vote. C'est-à-dire qu'un catholique a le même droit de vote, le même droit de vivre, de travailler qu'un protestant d'Irlande du Nord. C'est pas difficile, quand même. Et il se trouve que, malheureusement, cette phrase terrible des Irlandais, Dieu nous a fait catholiques, le fusil nous a fait égaux, on en est passé par là.
C'est aussi pour cette raison-là, parce que c'était une lutte à mort pour l'égalité et pour l'égalité des droits, que les morts après les grèves de la faim, comme celle de Bobby Sands, vous ont, pas seulement, hein, elles ont bouleversé le monde, hein, mais vous ont particulièrement touché.
Oui, c'est-à-dire que le
monde... C'était des jeunes qui se battaient pour leurs droits, c'est ça?
C'est-à-dire que d'abord, il faut dire que le monde a eu beaucoup de mal à se réveiller quand même. Parce que moi, même à Libération, au sein du journal, et puis dans mon entourage, etc., pendant des années, c'était les terroristes. C'est très compliqué de mener une lutte armée, d'être combattant dans une Europe démocratique. En plus, face à la Grande-Bretagne, qui est le parangon de la démocratie. C'est extrêmement compliqué de prendre les armes. Donc évidemment, ceux qui prennent les armes, comme aujourd'hui les Basques qui ont arrêté la lutte armée, mais en tout cas, quand les Basques se battent contre les Espagnols, contre la violence qui leur est faite par les Espagnols et par les Français, ou quand les Irlandais se battaient contre la violence qui leur était faite par les protestants d'Irlande du Nord et par les Britanniques, c'est difficilement compréhensible.
Mais parce que ça fait des morts de l'autre côté. Oui, mais parce qu'il y a eu des bombes aussi, dira.
Bien sûr, mais quand on dit « mais ils ont qu'à voter », d'accord, mais avant de pouvoir voter, il faut qu'ils aient le droit de vote. Le problème, c'est que l'IRA a été obligée à un moment donné, c'est une politique un peu bancale, mais qui a porté ses fruits, la preuve, de dire « le fusil dans une main, le bulletin de vote dans l'autre main ». Il n'y avait pas le choix, c'est-à-dire que c'est le fusil qui protégeait le droit de voter. Aujourd'hui, tout ça m'a l'air très loin maintenant, puisqu'il y a eu le processus de paix, effectivement. C'est-à-dire que l'armée républicaine irlandaise a choisi Libération pour annoncer qu'elle déposait les armes, non pas le Times, non pas le Monde, non aucun journal autre que Libération. Donc ça, c'est la preuve, c'est d'un patient travail que Libération et moi avons fait au sein de la communauté républicaine, ça c'est une chose. Mais surtout, aujourd'hui, ce terrorisme, entre guillemets, nous paraît extrêmement loin. C'est-à-dire que tous ceux qui me disaient à l'époque « ouais, c'est des terroristes », etc., aujourd'hui, ils n'osent même plus dire ça. Ils disent « ah oui, mais l'Irlande, ça n'a jamais été pareil, c'était un vrai combat ». Mais pourquoi ils ne l'avaient pas dit avant? Ce combat pour les droits, aujourd'hui, ça y est, il est reconnu, il est entendu. Monsieur Tony Blair, quoi qu'on dise de ce Premier ministre britannique, dès lors qu'il a dit « je propose qu'on se mette à une table et que l'on discute », comme l'IRA l'avait toujours dit, l'IRA a dit « on discute, on dépose les armes ». Depuis le début, c'est-à-dire, et c'est terrible ce que je vais dire, mais si les Britanniques avaient accepté de discuter en 69, l'IRA aurait déposé les armes en 69. Donc c'est simple, c'est-à-dire que tant que l'armée républicaine irlandaise, tant que les catholiques d'Irlande du Nord étaient considérés comme un peuple de seconde zone, avec moins de droits que les autres, eh ben ils se sont battus. Et dès qu'un premier ministre britannique a dit « réfléchissons aux droits », ils ont arrêté de se battre. C'est-à-dire c'est extrêmement simple. Et aujourd'hui, donc depuis quelques temps, eh ben Sinn Féin, donc qui veut dire nous-mêmes, la branche politique de l'IRA de l'époque, est majoritaire en Irlande du Sud et en Irlande du Nord. C'est-à-dire que donnez-nous le droit de vote et vous verrez qui nous sommes. Ils ont eu le droit de vote, ils ont eu le droit de se présenter aux élections et ils sont en train d'être majoritaires un peu partout dans l'île parce qu'il n'y a qu'une seule Irlande, bien sûr.
On entend en tout cas, Serge Chalandon, dans votre bouche, dans votre emportement, dans votre passion, ce que un des personnages d'un des livres qui a été inspiré par l'Irlande, et notamment le combat en Irlande du Nord, écrit, puisque c'est Tyrone Meehan, dans Mon traître, qui dit du petit français, on peut supposer que le petit français c'est vous, qu'il n'était pas comme les autres visiteurs, il n'observait pas notre souffrance, il la partageait. On entend bien que vous la partagez. Et dans le recueil de vos articles, qui est apparu aux éditions Black Star Édition, dans ce recueil d'articles, vous écrivez, je crois que c'est dans la préface, que ce sont des reportages au cœur gros. Des articles souvent pleins de larmes et de désarroi, de colère ou d'espoir. Ce n'est pas la mise en lumière du travail d'un journaliste, mais l'histoire de l'intérieur et au jour le jour d'une communauté opprimée, de son douloureux combat pour la dignité. C'est vraiment quelque chose qui vous a forgé, quoi, qui vous a construit. Hein.
Alors ce qui m'a construit, puis là je vais essayer d'être extrêmement clair, ce qui m'a construit c'est d'abord la violence qui était faite aux républicains irlandais. Et ce qui m'a bouleversé aussi, c'est quand l'IRA a fait des attentats aveugles. C'est-à-dire que l'IRA a toujours prétendu, et c'était important, de mener, si c'est possible, une guerre propre. Chaque bombe était précédée d'un avertissement suffisamment long pour que les... Et il est arrivé que l'IRA pose une bombe sans aucun avertissement. Et je crois que la violence que j'ai ressentie et le chagrin que j'ai ressenti ce jour-là, je pense à la Mon House ou je pense à une bombe qui avait été posée dans le grand magasin Harrods à Londres. Ce que j'ai ressenti lorsque l'IRA a fait des choses comme ça était plus violent encore que quand des républicains étaient tués par les Britanniques. Parce que tout d'un coup, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de trahir leurs idéaux. Heureusement, tout ça a été rectifié extrêmement vite. Et effectivement, quand il a fallu déposer les armes, parce que c'était nécessaire, les armes ne sont pas un moyen. C'est juste à temps, comme ça. Dès que ça a été possible, ils l'ont fait. Et là, j'ai retrouvé les républicains tels que je les connaissais.
Ces reportages vous ont inspiré deux romans, Sœur Chalandon. Oui. Mon traître et Retour à Quilibex. Ces romans racontent l'histoire d'un traître, Tyrone Meehan. Je ne sais pas si c'est son vrai nom.
Non.
Tyrone Meehan, un homme considéré pendant très longtemps comme un héros de la cause nord-irlandaise, ou de la cause irlandaise tout court, dont vous avez appris en 2006 qu'il avait trahi son camp. Mm. Cet homme a vraiment existé. Mm. Ce fut un traître à la cause, mais ce fut aussi un traître à vous, puisque c'était un grand ami. Un grand ami.
Je suis un trahi périphérique, mais je suis un trahi quand même. C'est-à-dire que... Moi, ce qui m'intéresse dans la trahison, c'est comment on devient un traître. Je crois que j'en ai jamais voulu à mon père. Je me demandais comment est-ce qu'on devient ce bourreau. C'est la même chose pour le traître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fonctionne, comment ça marche. Il y a un traître en moi, bien sûr. Il y a un traître en chacun de nous. Le problème, c'est de l'écraser avant qu'il ne se manifeste. Et moi, ce qui m'intéressait pour ce traître-là, qui s'appelait Dennis, son prénom. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on devient traître? Comment est-ce possible? Est-ce que tous on peut être amené à devenir traître un jour? Pour moi, la réponse est oui. Sauf si on se bat très, très, très violemment contre le traître qui est en nous. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que cet ami, c'est un ami. C'est notre ami, ami de gens, plein de gens en Irlande, en France, etc. Cet ami qui est le plus articulé de tous, qui est le plus malin de tous. J'ai eu plein de journalistes français qui m'ont demandé, t'as pas un contact là-bas, quelqu'un qui peut nous expliquer tout. C'est vers lui que je les envoyais tous. C'est-à-dire, c'est celui qui, c'est pas un traître qui disait il ne faut pas se battre, c'est un traître qui expliquait pourquoi il fallait se battre. C'est-à-dire c'est pas un traître qui dénaturait le mouvement, c'est un traître qui le magnifiait. C'est pas un traître qui trahissait la cause, c'est un traître qui informait l'ennemi. Donc c'était extrêmement étonnant, c'était autre chose. Moi je sais que ma femme comme tout le monde avait un problème avec la lutte armée, c'est normal. Mener une lutte armée dans un pays démocratique, c'est d'une complicité absolue. Je l'ai laissé entre ses mains pendant une journée et il l'a promenée à Belfast en lui montrant des lieux où des copains avaient été tués, etc. Quand elle est revenue me voir, elle m'a dit « Je comprends maintenant pourquoi ils se battent ». C'était ça, le traître. C'est un homme qui pouvait, en une journée, vous faire comprendre pourquoi est-ce que prendre les armes était nécessaire. Donc, loin de nous l'idée de penser que c'est un traître. Mais en même temps, ce même homme informe l'ennemi sur les activités de son propre camp. Alors oui, j'ai été trahi.
Et il l'a fait pendant 25 ans.
Il l'a fait pendant 25 ans. Donc oui, j'ai été trahi, mais tellement moins que, je sais pas, sa femme, ses enfants, ses proches, les combattants avec lesquels il... Moi, je suis vraiment le petit Français trahi périphérique, exactement comme je l'ai raconté dans Mon Traître. C'est-à-dire, dans Mon Traître, je deviens luthier, parce que le luthier rentre dans les pubs, parce qu'il a son petit violon, parce qu'il connaît tout, etc. Mais je suis moi, quand j'écris Mon traître, c'est surtout pas, ou Retour à Quilibec, c'est surtout pas pour dire comment il a trahi, c'est dégueulasse. Non. C'est comment on fait pour trahir. Et moi, ce que je voulais aussi, et ça, je n'ai pas pu le faire parce que la mort a été plus rapide, j'aurais tellement, donc il a été assassiné ou exécuté le 4 avril 2006, j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé voir si son regard avait changé, si j'aurais aimé voir comment il bougeait, comment il respirait, comment il regardait en face ou pas. C'est comment le visage d'un traître, lorsque ça a été un ami, quand ça a été un proche. Qu'est-ce qui a changé en lui? Ou rien, peut-être. Et surtout, et donc j'ai prêté à cette situation, parce que dans mon roman, c'est ça qui est bien pour un romancier, c'est que je peux aller le voir alors qu'il est mort, mais je peux aller le voir et je peux discuter avec lui. Et j'ai fait exactement ce qui se serait passé, je pense. C'est-à-dire, il m'aurait vu entrer chez lui, par exemple, dans là où il se cachait, et il m'aurait dit, mais attends, quel orgueil, Sorge. Quel orgueil, petit Français. Tu penses que j'ai trahi tout le monde sauf toi, c'est ça? Mais quel orgueil. Attends, tu es venu, t'as fait tout ce chemin pour venir me voir, juste pour savoir si je t'aimais vraiment? C'est ça, ton problème? Oui, c'est ça, mon problème, Denis. C'est ça. Quand on marchait ensemble et que tu me tenais par l'épaule, qui me tenait par l'épaule? Le traître ou l'ami? Qu'est-ce qu'un ami? Et c'est ça que je voulais lui demander, j'ai pas pu. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce roman aussi. J'ai écrit ce roman comme ce qui se serait passé vraiment, c'est-à-dire qu'il m'aurait traité de petit orgueilleux. Et puis je serais reparti sans les réponses que je voulais. Denis, c'était notre Irlande. Tout d'un coup, tu as tout ce que tu aimes, tout ce que tu as construit, tout ce qui s'effondre. Et il faut que d'autres gens là-bas te disent, mais attends, il nous a trahis aussi. Nous sommes là, nous. Ton Irlande, elle est encore avec nous. Elle est là. Elle existe. Mais c'était très difficile à surmonter. Maintenant, voilà, c'est surmonté. Et quand je pense à lui, c'est très, très particulier. J'ai une sorte de petite morsure au cœur, en me disant, tu te rends compte, si t'étais là, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est exactement ce que tu rêvais depuis des années, ce dont tes parents rêvaient, tes grands-parents rêvaient, ce dont ton peuple rêvait, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir, qu'il y aura n'importe comment, un jour ou l'autre, un partage des pouvoirs égalitaire en Irlande du Nord, et là, que la frontière va sauter, cette frontière va sauter, évidemment, c'est dans les accords de paix, il y aura un référendum, Denis, tu rates tout ça. Quel dommage.
Vous êtes retourné en Irlande après 2006. Vous avez arrêté d'écrire pour Libé en 2006.
Alors, j'ai arrêté d'écrire, parce que c'était trop... Ben, je me sentais beaucoup trop impliqué et je n'ai pas envie que les lecteurs aient un tract entre les mains.
Et vous êtes retourné en Irlande.
Et je suis retourné en Irlande, mais ce qui était important, c'est que... Et ça, je ne crois pas... J'ai couvert pas mal de fronts de guerre, mais les Irlandais, les républicains irlandais sont les seuls dans Un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tom Hartley, qui passait son temps à me dire, mais Sorge, va en face. Reste pas avec nous, collé avec nous. Va en face. Va voir les loyalistes, va voir les protestants. Parce que si tu comprends pas leur peur à eux, ben, tu comprendras rien à ce qui se passe ici. Et ben, qu'un combattant, dans un conflit, propose à un journaliste d'aller en face pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe, j'ai jamais connu ça nulle part ailleurs.
Merci, Sorge Chalandon. On poursuit avec l'épisode 3, reporter de guerre. Vous avez fait vos premières armes en Irlande du Nord, mais vous avez continué sur d'autres terrains de guerre. Et cette phrase de Tyrone dans votre roman l'explique bien, puisqu'il explique aussi ce qui a fait peut-être qu'il est devenu un traître. Il écrit « J'en veux à ces salauds pour ce qu'ils ont fait de nous. Je leur en veux parce qu'ils nous ont obligés à tricher, à mentir et à tuer. Je déteste l'homme qu'ils ont fait de moi. » C'est peut-être ça le propre de la guerre. On verra ça demain. À demain. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.